Merci, Monsieur Stone. La parole est à vous, des questions à qui vous voulez d'ailleurs, pendant une dizaine de minutes. Monsieur.
Bonjour, j'ai pris le temps d'écouter vos propos et très cher monsieur le directeur de la GFIP, voilà, j'aurais voulu vous interpeller directement. Je suis sur la région de Bordeaux. Il se trouve qu'au niveau de la GFIP, on voit que les ressources s'amenuisent. Alors, il y a des histoires de cotisation, effectivement, hein. Mais moi, ce qui me choque dans les points que vous avez nommés, et moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que dans la GFIP, il y a une injonction avec les donneurs d'ordre, avec les PPS. Et au niveau des PPS, il y a la rencontre avec la personne sourde. Donc moi, en tant que conseiller ou référent, je vais faire une évaluation sur les 8 heures. Ensuite, il y a une autre évaluation sur le projet, la formation, avec pareil, une limitation sur le volume horaire. Bon, il se trouve qu'il y a des personnes sourdes qui rencontrent d'autres types de difficultés, de par leur parcours éducatif, de par la prise de parole, de par un projet de construction aussi. Et le référent en 8 heures va pouvoir réellement poser un diagnostic. Moi, ça m'interpelle. Quels sont les moyens, les compétences, le soutien? Moi, je pense qu'en 8 heures, ce n'est pas suffisant. Et ça me paraîtrait vraiment intéressant que vous puissiez venir dans notre structure pour évaluer un petit peu le besoin des personnes sourdes, pour que vous puissiez vous rendre compte réellement des difficultés qu'on va rencontrer par rapport à ces 8 heures qui nous sont imposées. Voilà, il se trouve que, y a des besoins qui sont autres, et le résultat, c'est finalement un parcours avec un échec à l'arrivée, avec des souffrances, et avec ces PPS, on va directement à l'échec aussi. Voilà, moi en tant que personne sourde, je suis choquée par ce dispositif et par ces injonctions qui sont limitées au niveau du volume horaire et qui ne nous permettent pas d'aller jusqu'au bout du travail engagé. Voilà, vous avez parlé aussi de rencontres avec les multiprofessionnels. Il manque vraiment un regard aussi sur le terrain. Donc j'aimerais que vous veniez dans ma structure, s'il vous plaît. Je vous engage à venir et en tout cas, je vous remercie pour m'avoir écouté.
Écoutez, je viendrai très volontiers. D'autant plus volontiers que se posera pour nous très clairement la question d'évaluer le contenu, la façon dont sont mis en œuvre les prestations. Puis, pour une raison très simple, c'est que ce qui est nécessaire maintenant n'est pas nécessaire, forcément ce qui sera, enfin, ce qui nous semblera en tout cas nécessaire de faire dans quelques années. Maintenant, ce que vous illustrez pour rentrer au niveau de la description que vous faites, vous parlez de la personne qui peut avoir besoin de plus de 8 heures, c'est possible, c'est même très certain. C'est le plafond qu'on a voulu mettre à un moment donné sur une prestation qui, par nature, ne peut pas être une prestation à durée indéterminée pour être clair. On pourrait aussi parler des personnes pour lesquelles la prestation dite de 8 heures se réalise en 2 ou en 3. Ça existe aussi.
Monsieur.
Oui, bonjour Alexandre Savera. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, monsieur Stone, sur la situation du handicap. Et moi, je ne suis pas une personne handicapée. Par contre, je suis presque tous les jours en situation de handicap parce que je travaille avec des sourds, avec des groupes que sourds. Et c'est vrai que je me sens vraiment en situation de handicap assez souvent. Voilà, je voulais aussi poser une question à monsieur Parisot. On nous demande dans le médico-social de faire des plans d'accompagnement personnalisés. C'est une obligation, hein, selon la loi 2002. On doit individualiser les parcours, adapter les parcours aux personnes. Or, on s'aperçoit que souvent, les prestations de compensation, moi je travaille dans la surdité, hein, donc on va plus parler de l'aide humaine, hein, des 212 heures. Vous avez raison, des fois 212 heures, ça peut être trop, mais des fois, c'est pas assez. Sauf qu'aujourd'hui, le système est fait de telle sorte que ce système est complètement figé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser ce plafond alors que certains en ont besoin et d'autres n'ont pas forcément besoin de la totalité. Après, je sais qu'il y a un problème qui est plus politique envers certains CRP, les centres de réadaptation professionnelle, où carrément, là, la GFIP refuse de mettre en place l'aide humaine pour les personnes sourdes qui vont ponctuellement dans les formations en CRP. Je sais que les CRP ont des moyens de financement qui sont autres, mais qui financent aussi, du coup, des psychologues, des médecins, des assistantes sociales, dans certains des éducateurs, des animateurs. Et forcément, on ne peut pas tout financer. Alors, qu'est-ce qui fait le choix que dans un centre à l'AFPA, on va avoir une interface ou un interprète et qu'en CRP, on ne l'a pas? Je pense que ça, c'est plutôt politique. Et comment essayer de plus individualiser les parcours, c'est-à-dire de répondre plus aux besoins et non pas pour tout le monde un forfait de 112 heures qui a été alors décidé, je pense, par rapport à une enveloppe budgétaire.
Pour ce qui concerne la première question, j'allais dire la réponse là aussi elle est contenue dans la question. Pourquoi la GFIP intervient-elle non pas sur vis-à-vis du centre, mais sur la compensation du handicap de la personne engagée dans un parcours de formation auprès d'un centre de formation classique, ou citer l'AFPA, on aurait pu citer tout autre centre de formation présent dans une offre régionale de formation d'un conseil régional, par exemple, ou etc., etc. Et pourquoi elle ne le fait surtout pas, à la limite, on se pose plus la question par rapport à ça, en rééducation professionnelle. Alors, il y a une raison qui apparaît, je pense que vous avez tous la réponse, c'est que simplement la mission de la rééducation professionnelle, c'est de travailler, de n'accueillir que des personnes handicapées, avec une spécificité, une tarification et des missions qui lui sont clairement dévolues sur ce registre-là. J'allais presque dire, c'est malheureusement aussi simple que ça.
C'est pas toujours aussi simple que ça.
Non, j'ai pas dit que c'était simple dans la réalité, dans la pratique, mais quand vous me dites pourquoi faisons-nous comme ça, on fait comme ça pour cela, pour cette raison-là.
Oui, mais sans concertation. Voilà, c'est une décision qui a été prise et il n'y a pas derrière de concertation, d'évaluation réelle des besoins des personnes. Parce que
alors, ensuite, la question de l'évaluation des besoins de la personne. On va reprendre le problème à la base. Ce que nous cherchons à faire, c'est non pas à couvrir individuellement toutes les situations à travers des prestations de dimension et de taille de nature à couvrir l'intégralité des situations qui peuvent se présenter, mais effectivement à mobiliser nos ressources et nos moyens sur, j'allais dire, un panel ou une représentation de situations qui correspondent aux, je ne vais pas dire aux situations les plus fréquentes, mais en tout cas à celles qui sont effectivement à la fois les plus fréquentes et qui répondent à des objectifs relativement. C'est pas simplement un problème, j'allais dire, de budget, parce que, j'allais dire, prenons, c'est une simple règle de trois au fond des choses. Quand vous avez un budget de 100, selon que vous voulez faire une prestation de 100 heures ou une prestation de 50 heures, vous n'aurez pas la même ressource, enfin, vous n'en ferez pas autant. Donc, c'est un choix qui consiste à dire, on essaie de répondre à des besoins d'une partie ou de la plus grande partie possible de la population, et effectivement, on peut être, j'allais presque dire à la marge, ou même peut-être plus fréquemment pour un certain nombre de personnes, dans des situations plus compliquées. Malheureusement, on aura et on continuera à avoir ce type de situation où on ne couvrira pas 100% des cas envisageables. C'est juste.
Une question de ce côté-là, Bertrand Tessier, si on pouvait ramener le micro de ce côté. Une question de ce côté-là, Bertrand Tessier. Mais là, voilà. Ensuite, Sophie Pinel, et ensuite Jean-Marie Jacquot.
Oui, sans vouloir me faire le porte-parole des collègues des services de l'appui à l'emploi, puisque nous avions un éminent représentant à la tribune, la parole de Patrick, une interpellation à la fois à la FISAF, à la Fédération, et à la fois à la GFIP. Nous travaillons, j'allais dire, de part et d'autre depuis de nombreuses années ensemble. Dans les propos que j'entendais, me venait donc une suggestion, une proposition donc que je vous renvoie. Pour une démarche que je qualifierais de participative future aux changements qui vont récemment se produire, puisque les politiques mises en œuvre, on sait bien qu'elles c'est un mouvement, j'allais presque dire, perpétuel. Pourrait-on imaginer, comme ça se fait au niveau de la GFIP, avec, je crois savoir, les prescripteurs donc de rencontres régulières, notamment au niveau national, avec les Cap Emploi, ou les représentants des Cap Emploi, en l'occurrence, que l'on puisse imaginer que la GFIP et le FIP, je ne sais pas si M. De Caffarelli est encore là.
Non, je pense que
bon, c'est pas grave, on leur transmettra peut-être la proposition. Et également les représentants de l'OETH, hein, qui sont, pour aller vite, les trois principaux donneurs d'ordre, pour reprendre ce que disait Maurice tout à l'heure, que l'on puisse donc participer en amont, d'une part, à un état des lieux sur, j'allais dire, la qualité des prestations et l'efficience, surtout, de nos prestations, avant de pouvoir éventuellement donc apporter des modifications futures, encore une fois dans une démarche participative qui pourrait être représentée sous l'égide de la FISAF pour ce qui concerne la déficience sensorielle, parce que j'ai bien conscience, enfin nous avons bien conscience que, si j'en crois les statistiques de la GFIP, sans me tromper, ça représente à peu près 14% du public en situation de handicap. Merci.
Moi, là-dessus, je ne vais pas répondre à la place de la FISAF, non, je plaisante. Les processus d'élaboration de nos services, de nos aides, sont, contrairement à ce que vous pouvez penser, très, très ouverts. C'est-à-dire que quand je vois l'année que nous avons passée, aussi bien régionalement que nationalement, avec des interlocuteurs divers et variés, dans des processus qu'on peut qualifier effectivement de processus de concertation, au premier rang desquels les associations représentatives des personnes handicapées ont été largement mobilisées. Les arbitrages ont été faits dans ces... Enfin, les arbitrages, c'est le CA qui les a faits, mais je veux dire, ils ont été largement préparés dans ces instances. Donc, sur le futur calibrage, par exemple, des PPS, le contenu, etc., oui, on a une préoccupation. Hein. Alors, j'espère qu'on ne l'appellera plus PPS, parce que si je vous dis l'origine du concept, ça serait particulièrement intéressant, puisque ça remonte à la fin des années 80, 95 ou 96, cette situation-là. Les questionnements que nous posons actuellement et les solutions que nous devons rechercher, c'est ce que j'appellerais notre capacité à pouvoir englober dans des prestations et éviter de collectionner les tuyaux d'orgue. Alors, c'est très sympa pour la musique baroque, hein, dans les chapelles, mais c'est moins pratique et moins usuel pour les personnes, pour les services et chacun qui intervient sur ce registre-là. C'est comment nous pouvons englober dans une prestation commune des handicaps ou des situations qui dépassent les grandes typologies de handicap. C'est un vrai problème. Moi, ce à quoi je vous inviterai, c'est aussi à réfléchir au-delà de des déficiences sensorielles, à quelle façon les partenaires locaux, opérateurs, spécialistes de ces registres-là peuvent se regrouper. Je ne parle pas de fédération ou de enfin, trouver des formes, c'est pas voilà, peuvent se regrouper pour pouvoir offrir une, je vais pas dire une palette de services, mais pour pouvoir répondre à une multiplicité de situations qui sont qui ne deviennent pas au fil du temps des situations minoritaires, qu'on n'est pas entre guillemets des situations, on parle de maladies orphelines, hein, concept est pas très agréable sur le fond, mais ça peut correspondre réellement à ce type de situation. Comment peut-on ne pas laisser au bord de la route, d'une certaine manière, une multiplicité de personnes parce qu'on n'est pas en capacité à trouver, peut-être qu'il ne faut pas le trouver partout non plus, parce qu'on ne prend pas à faire de miracle, pouvoir offrir un service et une prestation à ces personnes-là, oui.
Sophie Pinel et Jean-Marie Jacot. À ta gauche, Jean-Louis.
Excusez-moi. Oui, Sophie Pinel de l'association Voir Ensemble, responsable du SIADV Bretagne. J'ai bien entendu, Monsieur Parisot, la priorité de la GFIP sur l'égalité du traitement des publics, quel que soit leur type d'handicap. Et du coup, avec la mise à disposition de l'outil PPS qui a été proposé en appel d'offres sur beaucoup de types de handicap. Maintenant, là où je reste interrogative, c'est par rapport au dernier appel d'offres sur les EPAST, les études d'adaptation et d'aménagement de postes de travail qui sont là, proposées de manière généraliste. Évidemment, j'ai bien écouté aussi votre dernière réponse en disant il y a des possibilités de regroupement pour ne pas laisser en marge ce public sensoriel qui est minoritaire. Mais quelles ont été, je dirais, les motivations de la GFIP à proposer cet outil-là de avec cette approche généraliste, là.
C'est un peu l'histoire de l'iceberg. Vous voyez une partie de l'iceberg, l'endroit où vous êtes placé. Nous voyons une utilisation des études, ce que nous avons appelé PAS, c'est des études préalables et d'aménagement des situations de travail. Très charmant sigle, s'il en est, parce que ça correspond à des situations d'un milieu agricole, de très nombreux exploitants agricoles, dans des situations industrielles aussi nombreuses, qui correspondent à des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, excusez-moi du terme, cataloguées, déficientes visuelles, déficientes auditives, déficientes ceci ou cela, qui sont des personnes qui ont des limitations d'aptitude au port de charge, qui ont des maladies invalidantes, qui ont des... etc. Et donc, nous, notre approche, elle est tout simplement pragmatique. Il s'agissait de traiter dans le cadre... j'allais dire, d'une prestation qui correspondait, comme je le disais tout à l'heure, à une prestation proposée, qui n'est pas que la GFIP n'a pas inventée. Je veux dire, une étude de poste par des ergonomes, ce n'est pas une invention. La GFIP n'a pas inventé l'ergonomie en France, on n'a pas cette prétention-là. Il s'agit simplement de pouvoir proposer à des employeurs, à des Cap Emploi, à des SAMET, la possibilité de prescrire une intervention d'un spécialiste de la situation de travail, mais pas simplement au sens de l'ergonomique du terme, mais qui peut être aussi une prestation de type ressources humaines, avec des compétences en ressources humaines, en formation professionnelle ou quelque chose comme ça, pour traiter soit la situation de travail de la personne, soit son une possibilité d'évolution professionnelle dans l'entreprise. Alors, qui peut passer par des aménagements, mais pas nécessairement et obligatoirement des aménagements. Donc le processus d'achat que nous avons mis en place là-dessus repose sur un cahier des charges commun à l'ensemble de nos délégations régionales permettant de correspondre à ces problèmes. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que sur le marché, on retrouve des cabinets d'ergonomie qui sont nombreux, qui ont des compétences, et qui ont des compétences qui sont sur des champs larges, pas... ils ne sont pas omnicompétents, mais ils ont des compétences larges et ils savent s'associer avec, ici et là, des compétences spécifiques quand les problèmes spécifiques peuvent se poser. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne.
Merci, parce que là, on est tenu par le temps. Une dernière question très, très courte de Jean-Marie et une dernière réponse encore plus courte de M. Parizeau.
Je ne suis pas sûr que... Oui, Jean-Marie Jacquot, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse, mais je voudrais vous livrer une observation de ma place. Déjà, je voudrais vous remercier tous, parce que pour le coup... En écoutant les mots qui ont circulé, je crois qu'à la fois on a l'exposé, on a un remarquable jeu des acteurs. Donc merci Patrick pour avoir tenu cette place avec beaucoup de courage, parce que tu l'as bien dit et tu fallait bien le faire. Bravo Monsieur Parizeau, je crois que vous faites très bien votre travail avec le sourire et c'est bien de l'avoir fait. Et Madame Grenier nous a, je crois pour le coup, donné la solution. On est en fait, il me semble-t-il, face à une rareté de la ressource, claire, rareté de la ressource. Et aujourd'hui, ce qui faisait notre entendement commun ne peut plus être. Alors, la GFIP que représente M. Parizeau, bien, pour le coup, prend une option radicale. Écoutez les mots, achat, outil, opérateur, prestation. Donc, on change complètement de champ lexical, pour le coup. On se met sur un autre repère de valeur. Non pas que les valeurs de M. Parizeau aient changé, mais il a besoin d'employer ce terme-là pour que, eh bien, nous aussi, Patrick, hélas, tu l'as montré, il faut que nous sortions aussi de nos représentations. Et pour le coup, bravo Maurice pour la composition, parce que M. Stone, vous nous avez donné la réponse. Commençons par réinterroger nos mots, et puis quand on aura fait cela, après, on ira effectivement, je crois, évaluer les politiques publiques du handicap, parce que je pense que ça n'est pas fait. Et quand on dit qu'il s'agit simplement d'évaluer les prestations, on ne dit pas tout. Parce qu'aujourd'hui, on assiste, et la souffrance que Patrick nous a montrée, c'est quelque part, on est en train de dilapider un savoir-faire extrêmement important. Quand un service d'aide à la personne s'arrête, quand il licencie du personnel, quelque part, alors on dit en Afrique que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, quand un service ferme, quelque part, c'est encore d'autres personnes handicapées qui vont perdre de la ressource. Donc il me semble qu'il y a maintenant à revenir sur l'entendement, pour le coup, comme vous le dites, asseyons-nous sur nos nouvelles valeurs et puis construisons ensemble une véritable évaluation pour ne pas détruire ce qu'il ne faut pas détruire et puis changer ce qu'il faut changer, pour le coup.
Merci beaucoup. Merci à tous, merci à vous et merci à la table ronde.